C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Toute cette semaine, évidemment, on commémore ou on célèbre, c'est selon ce qu'on pense, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Il y a tout juste 200 ans, c'est le principe d'un bicentenaire. Chaque jour,
c'est bien
Clémentine,
de le rappeler, Stéphane,
mais... ah, ce Stéphane, quel talent.
Vous lui redonnez vie. Et aujourd'hui, en ce mardi 4 mai, vous nous parlez des petites manies de Napo.
Elle a des manies, manana, manies.
Qu'est-ce que c'est, Stéphane,
j'ai appuyé sur aucun bouton.
Je crois connaître Patrick Timsit. J'ai l'impression que votre culture musicale n'est pas à la hauteur de votre culture historique.
Non, mais qu'est-ce
historique.
Qu'il vient faire
je ne sais pas, il a des manies.
Le mot manie, vous savez, en régie, ils sont très réactifs, ça va très très vite dans leur tête.
Vous le dites mot, le mot manie.
Ah, il y a manina, manimanana,
manimanana, tout de suite, le son est envoyé.
Ça, oui, bon, alors, écoutez, au lieu de me passer du Timsit, dites-moi plutôt ce que vous souvenez du verbe que je vous ai appris tout à l'heure.
Oui, pétunier.
Voilà, donc vous savez maintenant que ça veut dire.
Qui ne veut pas dire.
Exactement.
Et non pas péter comme l'avait.
Oui, bon, on n'est pas sur le Prout ni sur le Danube. Bon, allez, concentrez-vous. Bon, donc Napoléon ne fumait pas, lui, il prisait beaucoup. Et plus exactement, il respirait le tabac. En 1808, il consomma 42 kilos de tabac à priser. Il utilisait un tabac très gros et quand il se baladait dans Saint-Cloud, il le faisait manger, il le donnait à manger aux gazelles qui aimaient bien ça. Alors, je vous dis 42 kilos, ça pouvait être un petit peu moins parce que généralement, quand vous prisiez à l'époque, vous en proposiez toujours à tout le monde autour de vous, y compris aux dames. Il y a des dames qui prisaient. Et Napoléon a offert des quantités absolument extravagantes de boîtes à priser. Oui. À son entourage.
C'était un moyen de propagande, d'ailleurs.
En plus, parce qu'il y avait,
son portrait.
Il y avait son portrait.
Et donc, en fait, c'était de la communication par les objets, des goodies, comme on dit aujourd'hui.
Des goodies.
Et puis, attendez, parce que c'était non seulement il y avait son portrait, mais généralement, c'était des boîtes très, très ouvragées, ornées de diamants. C'était en plus extrêmement précieux. Alors, je vous disais qu'il avait fumé 42 kilos de tabac en 1808. Il fait comme tout le monde. Napoléon, au bout d'un moment, il se dit « il faudrait quand même que je réduise ma conso ». Et on passe à 18 kilos en 1812. Donc apparemment, il faisait des efforts pour moins priser. Mais surtout, ce pourquoi est très connu, Napoléon, c'est pour ça... Pour le fait d'avoir été un grand maniaque de la toilette. Il adorait se laver à grandes eaux. Et à tel point qu'au moment de la seconde abdication, il avait un objet qu'on appelle une athénienne. Vous savez ce que c'est qu'une athénienne, Mathieu? C'est une sorte
une femme
de...
qui habite Athènes.
Ah, vous avez raison.
Oui, ça, c'est une femme qui habite à Athènes.
Ah,
je ne sais pas
Louis,
ce que vous voulez
l'humour
dire.
Mais... du primate, bien sûr, toujours. Oui, oui. Non, pas du tout. Eh bien, une athénienne, c'est une pièce de mobilier. C'est un magnifique lavabo en argent sur trépied, à col de cygne, avec une aiguière du même métal. Et celle de Napoléon avait été faite par Biennet, qui était le principal artisan de l'époque, qui a fait toutes sortes de maroquins ministériels, de fourreaux,
marocains,
d'épées, etc.
Qui habite le Maroc. Hein.
Exactement,
non,
voilà, c'est ça aussi.
Oui.
Alors, bref.
Je vous taquine, Stéphane.
Non, mais parce que des gens peuvent vous croire.
Oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort.
Vous avez
donc, un Marocain, c'est un
ce
portefeuille
pays.
Et c'est de Maroc, parce que le Maroc a évidemment une spécialité dans le travail du cuir. Donc, son valet de chambre, marchand, au moment de la première abdication, va rechercher cette Athénienne à l'Élysée parce qu'il savait à quel point il manquerait à Napoléon en exil de pouvoir se laver à grandes eaux avec son Athénienne. Mais il y a surtout une chose pour laquelle il était absolument maniaque, c'était son hygiène dentaire. Okay. Il se curait, on a plusieurs nécessaires dentaires de Napoléon, il se curait les dents avec un cure-dent en buis, ensuite il se les brossait avec une brosse à dents trempée dans de l'opia. L'opia pour le dentaire n'est pas de l'opia à base d'opium, mais avec de la rose et du cubeb, une épice orientale. Il se rinçait la bouche avec de l'eau de vie mélangée à l'eau, il se raclait la bouche avec un racloir d'argent ou de vermeil, ça pour la bouche, pour les dents, il était absolument maniaque. Après quoi, naturellement, chose là aussi bien connue, l'eau de Cologne, il s'aspergeait de l'eau de Cologne. La formule...
40 litres de...
Et ça dépend des années, même plus. Hein. Même plus, on a trouvé une facture aux archives qui datant du mois d'octobre 1808 où il avait été commandé 72 bouteilles d'eau de Cologne. Alors, il les a peut-être pas il les a peut-être consommées sur
c'est
une...
C'est Farina, nous a expliqué Elisabeth de Feydeau.
Exactement. Et il avait fait faire des flacons longs et plats qu'il pouvait mettre mettre dans ses bottes et transporter comme ça. Et même à Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, c'est, il disposait d'un ersatz de son eau de Cologne. C'est son fidèle Mamelouk Ali qui a déployé des trésors d'ingéniosité pour essayer de dénicher dans, dans cet îlot du bout du monde où il n'y avait quand même pas grand-chose, citron, bergamote, néroli, pour essayer de fabriquer une eau de Cologne à Napoléon. Ça, c'était très important pour lui. Et on peut le comprendre parce que l'eau de Cologne, ça vous apporte une sorte de shoot, de fraîcheur extraordinaire et unique à l'eau de Cologne.
Mais il ne se lavait pas comme éveillé ou c'était pour couvrir les odeurs.
Bien sûr que si. Il adorait les bains, il prenait des bains. Quand il était heureux, quand il était bien dans sa peau, il prenait un bain. Quand il a appris à Pulchtuc qu'il venait d'avoir un fils Léon, qui était la preuve qu'il était capable de procréer, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a pris un bain et il chantait du bel canto dans son bain. Et après, il se faisait frictionner à l'eau de Cologne. Vive l'empereur! Alors souvent, l'empereur avait d'autres.
On l'a perdu.
Il avait d'autres petites. Mais d'autres petites habitudes, je ne sais pas si vous les connaissez, celle-là, souvent il tailladait les bras des fauteuils avec des canifs. À l'extérieur, quand il marchait, il fouettait la terre avec sa cravache. C'était ses petits tics. Hein. Quand il marchait, il marchait rarement sans s'appuyer sur le bras de son interlocuteur, de façon assez amicale, comme ça. Puis alors, il avait bien d'autres manies, bien sûr. Celle qui est très connue, c'est de mettre sa main dans son gilet.
Ça, on sait pourquoi ?
Oui, parce qu'il n'y avait pas de poche à l'époque.
Exactement.
C'est uniquement, mais il ne savait pas où mettre sa main.
C'est pas pour son ulcère, hein. Ouais. Ah oui. C'est parce qu'on ne savait pas où mettre sa main.
Et on pouvait pas, vous ne pouviez pas vous tenir comme ça, les bras ballants, ça ne se faisait pas.
Comment faisaient les autres, alors ?
Eh bien, tout le monde faisait pareil. On mettait la main dans le gilet.
C'est le seul qui a été représenté.
Regardez, c'est contemporain. Il y a quantité de portraits de messieurs en pied. On les voit mettre la main dans leur gilet.
Ils faisaient tout très vite, à l'inverse de vous.
Oh non, mais dites donc, un bourre-pif en pleine paix. Non, c'est très désobligeant. Alors, très chers auditeurs, j'en termine, puisque me voilà poussé tel Murat à Pratzen par mon adversaire. J'allais vous dire que son plat préféré était le poulet frites, et en effet, il était très rapide.
Maringo.
Il le mangeait en 20 minutes, pas plus. Il avait une bibliothèque de campagne, de 1000 livres, il l'emportait partout. Quand le livre ne lui plaisait pas, paf, il le balançait par la fenêtre, et s'il était près d'un feu, il le mettait au feu. Enfin, Napoléon trichait presque toujours aux cartes. Dans le bateau qu'il emmenait en Égypte, où ses tricheries agacèrent fortement l'un de ses partenaires, Bonaparte rétorqua par cette phrase qui fera office de conclusion à ma chronique du jour. « Je ne triche pas, tout simplement, je ne laisse jamais rien au hasard. »
Merci Clémentine. Demain, pour la suite de
Je ne sais pas si je vais revenir demain. Hein. Alors moi, dans ces conditions-là.
Contrat, hein.
Lui non plus ne triche pas.
Je vais consulter mon avocat.
Quel sujet demain ?
Alors demain, je vous parlais évidemment de deux éléments vestimentaires qui caractérisent Napoléon, c'est-à-dire le bicorne et la redingote grise.
Voilà. Bien sûr.